Chapitre 59. Signor Tarnagol. Cinq mois plus tôt, samedi 15 décembre, peu avant minuit, 4 heures avant le meurtre. Anastasia venait d'assister au chantage que Jean-Bénédicte avait exercé sur Macaire. Ce dernier devait lui céder la présidence, en échange de quoi Jean-Bénédicte tairait que son cousin avait empoisonné la vodka utilisée pour les cocktails. Elle retourna ensuite dans la chambre de Lev et, après lui avoir tout raconté, elle lui dit « Il n'y a qu'une personne qui puisse empêcher ça. » « Qui ?»« Tarnagol. Je vais aller lui parler. »« Maintenant ?»« Il a démissionné. Il se sait menacé, il doit être en train de faire ses valises lui aussi. »« Je dois lui parler avant qu'il ne quitte l'hôtel. » Macaire m'a dit qu'il était dans la chambre voisine. « Tarnagol est dangereux, » prévint Lev. « Je le sais. » La réponse abrupte d'Anastasia surprit Lev. « Laisse-moi t'accompagner, » dit-il. « Non, Lev, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. C'est entre Tarnagol et moi. Il m'a volé une partie de ma vie. C'est à cause de lui que j'ai épousé Macaire. C'est à cause de lui que toi et moi... » Elle interrompit sa phrase. Elle n'avait pas envie d'en parler. Elle sortit dans le couloir et frappa à la porte voisine. Lev, resté dans sa suite, sentit la panique le submerger. Pour la première fois en 15 ans qu'il orchestrait cette imposture, son scénario parfaitement rodé était en train de lui échapper. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller ouvrir cette porte. Il se précipita sur son balcon et enjamba la balustrade pour passer sur le balcon de la chambre voisine, celle de Tarnagol, dont la porte-fenêtre restait toujours entr'ouverte. Anastasia, dans le couloir du 6e étage, tambourinait contre la porte. Aucune réponse. Elle se baissa alors. Au bout de quelques instants, elle vit un ray de lumière, comme si quelqu'un venait de se réveiller et d'allumer. Lev s'était débarrassé de ses vêtements en vitesse pour enfiler une robe de chambre lorsqu'il entendit la voix d'Anastasia percer à travers la cloison. « Tarnagol, je sais que vous êtes là. Ouvrez !» Lev attrapa le visage en silicone et l'enfila à la va-vite. Il tint la robe de chambre fermée en croisant ses bras pour masquer la différence entre le silicone et la peau du cou. C'était loin d'être parfait, il négligeait les règles élémentaires que lui avait enseignées son père. Mais il était au pied du mur. Il se dirigea vers la porte, qu'il savait au fond de lui que ce serait le moment de vérité. La porte s'ouvrit et Anastasia trouva devant elle Tarnagol, vêtu d'une robe de chambre, visiblement tirée de son lit.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Tarnagol. « Il se passe qu'il faut qu'on parle, vous et moi, » dit Anastasia. Tarnagol s'écarta pour inviter Anastasia à entrer. Elle le dévisagea de son regard de lionne furieuse et soudain, elle eut une brève vision. Elle reconnaissait ses yeux. Elle se rappela ce qu'elle avait dit le matin même à Genève au lieutenant Sagamore. « Les yeux ne trompent pas. » Elle comprit soudain et se jeta sur lui. Dans la suite 622, la suite voisine de celle de Tarnagol, Jean-Bénédicte Hansen exultait. La banque était à lui. Il était en train de ranger les actions prises à Macaire dans le coffre-fort de la chambre lorsqu'il entendit du bruit de l'autre côté de la cloison. Il semblait y avoir du grabuge chez Tarnagol. Il perçut des cris de femmes et un choc contre le mur. Il se précipita sur le téléphone pour prévenir la sécurité de l'hôtel, puis il sortit dans le couloir pour voir ce qui se passait. La porte de la suite de Tarnagol était ouverte. Une altercation avait lieu à l'intérieur. Il s'approcha lentement et découvrit à l'intérieur de la pièce une scène à laquelle il ne s'attendait pas. Anastasia était en train de secouer Lev par le col de sa robe de chambre. Par terre, sur la moquette, un masque en silicone qui ressemblait au visage de Tarnagol.
« Qu'est-ce que... » murmura Jean-Bénédicte.
Anastasia, se rendant compte de la présence du cousin Hansen, relâcha Lev. Celui-ci regarda impuissant Jean-Bénédicte ramassait le visage en silicone.
« C'était toi ? » dit-il stupéfait. « Pendant toutes ces années, c'était toi ? Tarnagol était une imposture ? »
Jean-Bénédicte porta le masque à hauteur du visage de Lev qui resta pétrifié. Son secret était éventé.
« C'est incroyable ! » dit Jean-Bénédicte avec une pointe d'admiration. « C'est absolument incroyable ! »
Il s'avança encore vers eux, une lueur menaçante dans le regard. À cet instant, une armoire à glace de l'équipe de sécurité arriva à la porte de la chambre.
« Est-ce que tout va bien ? » demanda-t-il. Un client s'est plaint d'avoir entendu des cris.
« Oh, tout va très bien !» assura Jean-Bénédicte, affichant un large sourire. « Nous répétions une scénette. Avons-nous fait un peu trop de bruit? Si c'est le cas, mille pardons. »
Jean-Bénédicte se dirigea vers l'agent de sécurité pour le rassurer d'un autre sourire et d'une tape sur l'épaule, avant de lui fermer la porte au nez. Il se retourna alors vers Lev et Anastasia et les fixa d'un air diabolique tandis qu'eux semblaient terrifiés.
« Quelle extraordinaire tournure prend cette soirée !»
s'enthousiasma Jean-Bénédicte. À ces mots, il enfila le visage en silicone et contempla son aspect dans le reflet d'un miroir mural.
« Prodigieux !»
s'exclama-t-il.
« C'est tout simplement prodigieux ! Tu nous as bernés pendant 15 ans, Lev ! Je veux tout savoir. Je veux savoir comment tu as fait !»
Jean-Bénédicte retira son masque et se dirigea vers la partie salon de la suite.
« Allons, asseyez-vous !»
ordonna-t-il à Lev et Anastasia. Ils furent obligés d'obéir. Ils s'installèrent côte à côte sur le canapé. Anastasia était apeurée. Elle eut le réflexe d'attraper brièvement la main de Lev. Le geste n'échappa pas à Jean-Bénédicte.
« Mais bonjour les tourtereaux !» s'écria-t-il. « De mieux en mieux, de mieux en mieux !»
Il ouvrit le minibar et se saisit d'une bouteille de champagne.
« Puis-je me servir ? »
demanda-t-il à Lev.
« Ou dois-je demander à Tarnogol ?»
Il agita la membrane en silicone et éclata de rire avant d'ouvrir la bouteille et de boire directement au goulot. D'un répugnant coup de la langue, il s'essuya les lèvres, puis s'écria
« Champagne ! Champagne pour Signor Tarnogol ! La plus grande imposture de toute l'histoire ! Et maintenant, Lev, raconte. Je veux tout savoir. »
15 ans plus tôt, le vendredi matin du grand week-end. Ce matin-là, Lev avait quitté Genève à l'aube pour rejoindre Verbier. La veille au soir, Anastasia l'avait conduit, ne venant pas à son rendez-vous à l'hôtel des Bergues. Arrivé à Martigny, comme il avait un peu d'attente avant de prendre sa correspondance pour le Châble, d'où il rejoindrait ensuite Verbier en bus, Lev décida d'aller boire un café, au chaud, à l'hôtel de la gare. Assis à l'intérieur, au milieu de l'agitation des nombreux clients qui prenaient leur petit déjeuner, il observait par la fenêtre la rue déserte. Soudain, à sa grande surprise, il vit son père apparaître, marchant dans la pénombre avec une valise à la main et pénétré dans l'hôtel justement où il se mêla aux autres clients. Lev, sans se montrer à lui, ne le quitta pas des yeux. Seul Levovitch traversa le hall et se dirigea vers les toilettes où il disparut. Lev décida de le suivre. Il avait le pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Il entra dans les toilettes à son tour. Personne. Il remarqua alors que l'une des cabines était fermée. Son père était à l'intérieur, avec sa valise, en train de procéder à tout un remue-ménage. Que pouvait-il bien être en train de faire? Lev attendit quelques minutes. Soudain, la porte de la cabine s'ouvrit. Lev resta médusé. Il ne pouvait pas y croire. L'homme qui se tenait devant lui était Signor Tarnogol. Papa ? Murmura Lev sous le choc. Tarnogol porta les mains à son cou et décolla avec précaution le visage en silicone qu'il portait. L'opération prit quelques instants. Lentement, derrière le masque, apparut le visage de Sol.
« Tu es Tarnogol ?»
balbutia Lev.
« Depuis tout ce temps, c'était toi ?»
Sol acquiesça.
« Tarnogol et quelques autres. C'est pour cela que M. Rose m'a engagé au sein du palace. » Pour devenir, sous de multiples identités, un client de l'hôtel et traquer les imperfections du service.
C'est ainsi que Lev découvrit, effaré, que certains des clients qu'il avait servis pendant des années n'avaient pas vraiment existé. Ou plutôt n'avait-il été qu'une seule et même personne, son père. Seul Levovitch était un immense acteur. Il avait trompé absolument tout le monde. Pendant toutes ces années, il avait créé des personnages plus vrais que nature. Grâce à Monsieur Rose, il avait pu enfin donner libre cours à son génie. Il avait fait fabriquer des visages en silicone sur mesure auprès du meilleur artisan dans le domaine, basé à Vienne, qui fournissait les plus grands studios de cinéma. Lev prit le masque en main et l'étudia. C'était stupéfiant de réalisme. Le nez, l'implantation des cheveux, la façon dont le silicone se fondait avec la peau autour des yeux et de la bouche, l'illusion était parfaite. L'effet du choc passé, Lev repensa au comportement de Tarnogol à son égard au cours de l'année écoulée et demanda des explications à son père. « Mais si tu es Tarnogol, pourquoi m'as-tu dénoncé auprès de M. Bisnard le soir du grand bal de la banque l'année dernière ?»«
Tous les autres employés du palace t'avaient vu. Ils étaient furieux contre toi. J'ai voulu mettre un terme à cet écart pendant qu'il était encore temps. Avant que tu te donnes en spectacle ou qu'un scandale éclate. Ça t'aurait coûté ta place. » Et puis, pour être honnête avec toi, j'ai vu la façon dont tu regardais tous ces banquiers, tous ces puissants. Je me suis senti petit. J'étais jaloux d'eux. Quand j'ai entendu que tu mentais sur ton identité pour faire croire que tu faisais partie de ce monde, je ne l'ai pas supporté.
Et ensuite, exigea de comprendre Lev.
Le printemps dernier, après qu'Anastasia fut partie à Bruxelles, tu étais malheureux comme une pierre. Je n'arrivais pas à te parler. J'étais frustré. Je t'ai proposé plusieurs fois de sortir dîner, tu voulais pas.
Tu te souviens?
Oui,
acquiesça Lev.
Je me suis alors dit que Tarnogol pourrait peut-être réussir là où j'échouais. J'ai choisi Tarnogol plutôt qu'un autre de mes personnages, car il semblait correspondre le plus au monde de la banque, selon moi. Tarnogol t'a proposé de dîner, mais tu as accepté.
Je ne pouvais pas refuser son invitation, se défendit Lev.
Peu importe, répondit le père. L'important est que j'ai passé une très belle soirée en ta compagnie. J'ai découvert qu'en mettant le costume de Tarnogol, je pouvais être le père plein de bon sens que je ne sais pas être quand je suis moi-même face à toi. La preuve, quand l'été dernier tu m'as dit que tu avais reçu une offre de la banque, cela m'a rendu fou. Je ne voulais pas que tu t'en ailles loin d'ici. Je t'ai fait une scène ridicule pour te dissuader de partir et tu es resté. Je m'en suis voulu car je voyais bien que ta place n'était plus à l'hôtel. Mais à Genève.
Alors tu es revenu au palace sous les traits de Tarnogol et tu t'es arrangé pour que je me fasse virer.
Ouais, Monsieur Rose était de mèche. Je lui avais dit que je te ferais sortir de tes gonds et que j'exigerais ton envoi.
Donc tout ceci n'était qu'une grande pièce de théâtre ? Dit Lev.
Si on veut. Le hasard a voulu qu'Anastasia débarque à ce moment-là et t'emmène avec elle. J'ai été triste pour moi et Tarnogol a été heureux pour toi.
« Mais pourquoi cette mascarade à la banque ?» demanda alors Lev. « Pourquoi cette histoire d'ouverture de compte et ensuite de rachat de banque ?»«
Monsieur Rose m'a dit que tu avais été mis sur la touche par le grand-père et Besner et que tu avais besoin d'un premier client important pour devenir banquier à part entière. Je me suis dit que Tarnogol était l'homme de la situation. Chacun de mes personnages dispose d'un véritable faux passeport, fabriqué à Berlin par un faussaire exceptionnel. Il le fallait pour les enregistrements à l'hôtel. » Je me suis dit qu'il suffirait d'un rendez-vous à la banque pour ouvrir le compte. J'avais mon passeport en poche, cela me semblait un jeu d'enfant. Je m'étais dit que je ferais traîner ensuite le versement de l'argent qui n'existait pas. J'invoquerais des problèmes avec les banques. D'ici là, devenu officiellement banquier, tu aurais attiré d'autres clients et tu serais devenu intouchable.
Mais le rendez-vous à la banque Besner ne s'est pas passé comme prévu, c'est ça?
Exactement. J'ai inventé une somme d'argent fabuleuse. Abel et Besner m'a demandé de signer tous ces documents. Je ne m'y attendais pas. Et en même temps, je devais aller au bout de la démarche. Je suis revenu au rendez-vous suivant avec tous les documents vierges dans l'enveloppe. Je savais qu'il n'y aurait pas d'ouverture de compte. Je voulais seulement gagner du temps. Pour toi. Pour t'aider. J'ai donc eu l'idée de poser une exigence à laquelle Abel et Besner ne pourraient pas accéder. Qu'ils vendent à Tarnogol une partie de sa banque.
Mais tu m'as fait passer pour le dernier des idiots. S'emporta Lev.
Je le regrette. Je voulais juste t'aider. Je vais tout arranger, tu vas voir. Je m'apprête à retourner au palace sous les traits de Tarnogol. Monsieur Rose m'a retenu une chambre à côté de celle d'Abel et Besner, et je vais lui dire
« Tu ne vas rien faire du tout !» explosa Lev. « Tu vas oublier ce personnage de Tarnogol.
Je vais convaincre Abel et Besner de te nommer banquier. Laisse-moi faire, s'il te plaît.
Mais je serai de toute façon banquier dès le mois de janvier, dès que Macaire deviendra officiellement vice-président. Je n'ai pas besoin de ton aide, tu comprends ? Je n'ai pas besoin de ton aide.
C'est bien le problème, murmura Sol.
Quoi?
Que tu n'aies plus besoin de mon aide. Tu as toujours eu besoin de moi. Je suis ton papa. Mais à présent, tu voles de tes propres ailes. Tu n'as plus besoin de moi et ça, c'est dur à accepter.
Lev n'en revenait toujours pas.
Je ne peux pas le croire. Tout ceci était une gigantesque farce. Ce n'était pas une farce, protesta le père.
Appelle ça un spectacle de clown si tu préfères. Répliqua Lev, profondément heurté par ce mensonge. Tous ces clients qui passaient leur temps à me tresser des louanges, qui m'ont fait me sentir fier de mon travail, ce n'est qu'une vaste supercherie.
Ah, comme vous avez dû rigoler avec Monsieur Rose. Comme vous avez dû vous ficher de moi.
Non, protesta Sol. Ces personnages servaient à contrôler la qualité du service du palace.
C'était un moyen de me garder au palace,
asséna Lev.
Non,
assura le père. Lev était hors de lui. Il se sentait trahi et humilié à la fois.
Ah, ton obsession ridicule d'être un acteur,
s'emporta-t-il.
Ce n'est pas un banquier qui a tué maman. C'est un comédien. À cause de toi et des spectacles ridicules, maman est partie. À cause de toi, elle est morte.
Lev, non, s'il te plaît.
Pardonne-moi, je pensais bien faire. Tu as tout gâché,
hurla Lev.
Tu n'es qu'un clown. Je ne suis pas un clown,
s'écria Sol.
Si t'es pas un clown, qui es-tu dans ton costume?
Je suis ton père. Je ne suis pas certain que tu sois le père que je voulais. Le père, à ces mots, blessé jusque dans sa chair, gifla son fils. Atteint par le geste plus que par la force du coup, Lev porta une main sur sa joue.
« Pardonne-moi, »
supplia Sol, qui regretta aussitôt son emportement. Lev recula en direction de la porte de sortie.
« Attends !»
s'écria son père.
« Il y a une bonne raison pour laquelle j'ai fait tout ça. Il y a quelque chose dont je ne t'ai jamais parlé. »
Mais Lev ne voulait plus rien entendre. Il s'enfuit. Il avait envie de disparaître. Il avait surtout besoin de réconfort. Il avait besoin d'Anastasia. Il devait la retrouver. Il sauta dans le premier train pour Genève. Et tandis qu'il voyageait de Martigny vers Genève, le train qu'il croisa en sens inverse, en provenance de la ville du bout du lac Léman, conduisait Anastasia à Martigny, d'où elle comptait rejoindre Verbier pour retrouver Lev. Lev passa la journée à errer dans Genève. À l'appartement d'Olga von Lacht, personne. Chez lui, personne. Il l'attendit longuement au Rémor, personne. Il se rendit dans chacun des endroits qu'elle affectionnait à Genève, en vain. En désespoir de cause, il retourna chez la mère d'Anastasia. Il n'y avait toujours personne. Il attendit longuement dans la cage d'escalier que quelqu'un vienne. Vers 19h, Olga von Lacht fit son apparition de retour du travail. Aussitôt qu'il la vit, Lev se dressa pour lui faire son numéro de Romanov. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, Olga se mit à hurler.
« Comment oses-tu venir ici, sale bête, rat d'égout ?»
Elle joignit le geste à la parole et se mit à flanquer à Lev des coups de sac à main.
« Madame von Lacht !»
s'écria Lev.
« Arrêtez enfin! Qu'est-ce qui vous prend ?»« Foule camp, saleté! Vermine! Imposteur! Je sais tout !»« Madame von Lacht !»
supplia Lev.
« Je dois absolument parler à Anastasia. J'ai passé la journée à la chercher. »
Olga retint son dernier coup de sac. Anastasia n'était pas avec Lev? Où était-elle partie alors? Elle décida de saisir cette occasion pour éloigner Lev de sa fille.
« Anastasia ne veut plus te voir, »
dit alors Olga.
« Elle aime un autre homme, un riche, un puissant, pas un misérable bagagiste. Fiche le camp, tu m'entends ?»
Lev s'en alla sans demander son reste. Et ce soir-là, après des heures d'errance, Lev, bouleversé par les événements des dernières 24 heures, retourna finalement au palace de Verbier. Il était passé minuit lorsqu'un taxi le déposa devant le palace. Dans le hall désert, il tomba sur son père qui semblait l'attendre. C'est ainsi que ce dernier, désespérant de retenir son fils, lui avait donné les lettres qu'il avait falsifiées pour lui faire croire qu'Anastasia aimait Macaire. Le père s'était trouvé lâche d'agir ainsi. Tarnogol aurait sans doute fait mieux. Mais il n'était plus Tarnogol. Il n'était plus que Sol. Et Lev, touché en plein cœur parce qu'il pensait être une lettre de rupture, était allé oublier son chagrin dans les bras de Petra.